Le Grand Matin Sud Radio Weekend. Le débat de la semaine.
Et c'est donc l'heure du débat en compagnie de Ryan Nézard, porte-parole de Cédric Villani. Bonjour.
Bonjour Philippe Davies.
Bienvenue sur Sud Radio. Daniel Rémy, expert en sécurité et terrorisme, auteur du livre, c'était il y a près de 20 ans, La France des talibans, République cherche repreneur, publié chez Grandchez. Vous en avez écrit d'autres depuis, bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur Sud Radio. Et Isabelle Dalouin, conseillère en communication. Isabelle Dalouin, bonjour.
Bonjour Philippe David.
Bienvenue sur Sud Radio. Tirez bien le micro vers vous, sinon on ne vous entend pas. Et mettez bien la bouche à côté du micro. Vous avez vu ce qui s'est passé hier du côté de la place d'Italie, des manifestations d'une rare violence. Je voudrais votre réaction, Isabelle Dalouin.
Alors moi, je suis complètement révoltée. Parce que on ne peut pas tolérer ça. Cet excès de violence, la destruction de la statue du maréchal Juin. Voilà, je pense que les revendications sont tout à fait légitimes. La France, toute une partie des Français ne s'en sortent plus, notamment dans les campagnes, le monde il y a tout un monde périphérique. Quand on voit qu'un agriculteur à la retraite, ayant travaillé toute sa vie, touche à peu près 900 euros par mois, et qu'il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, mais je pense que ce n'est pas en manifestant comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les choses.
Ryan Nézard, quand vous voyez ces violences du côté de la place d'Italie, en particulier le monument en hommage au maréchal Juin saccagé.
Écoutez, d'abord, j'ai envie de soutenir tous les agents publics, les policiers, les pompiers qui ont été aussi pris à partie, les membres de la préfecture de police, parce qu'ils ont été mobilisés dans un contexte extrêmement difficile. Vous avez parlé de ce saccage de la statue du maréchal Juin. Ça va chercher très profondément dans notre histoire. Maréchal Juin, c'était le corps expéditionnaire français en Italie en 1944.
Absolument.
C'était la bataille de Monte Cassino notamment, et d'autres faits d'armes. C'était les tabors marocains, c'était les tirailleurs tunisiens, algériens. Il y avait mon grand-père chez ces tirailleurs. Et tant d'autres. Donc c'est aussi leur mémoire qu'on a souillée hier.
Comme on l'avait fait à l'Arc de Triomphe il y a un an pour la statue du soldat inconnu.
Exactement. Et ça, dans notre pays, quand on s'attaque à cette mémoire, et de manière générale, quand on s'attaque à ce qui fait le lien, le ciment de notre peuple, alors on est en train de se défaire en tant que société. Mais je vais vous dire deux autres choses. Évidemment, condamner toutes les violences, comme vous venez de le dire, parce que les violences ne font pas avancer le débat, et parce que par ailleurs, elles sont subies par des habitants qui, eux, n'avaient rien demandé. Mais on va se dire les choses. On n'a pas non plus apporté des réponses, par exemple sur la question démocratique. On n'a pas apporté des réponses encore suffisamment sur cette coupure entre le peuple et les élites politiques. Et je ne parle pas là des casseurs. Je parle beaucoup plus généralement, dans notre pays, de quelque chose qui dépasse les gilets jaunes, et qui d'ailleurs n'est pas franco-français. Regardez ce qui a nourri le Brexit. Regardez ce qui a nourri l'élection de Donald Trump. Et donc rappelons-nous les racines de ces crises. Certes, il y a la précarité et les inégalités. Emmanuel Macron a essayé d'apporter des solutions. On verra, on en discutera. Peut-être qu'il faut aller plus loin sur certains points. Mais il y a aussi la question de la crise démocratique. Et quand, au niveau local, aujourd'hui, il y a des élections municipales qui arrivent, c'est justement l'occasion de répondre à cette crise. Moi, je me suis engagé, vous l'avez dit, avec Cédric Villani pour la municipale parisienne. Je vous donne juste deux exemples pour terminer. On propose le tirage au sort sur nos listes. On propose des référendums locaux. On propose la transparence sur l'usage des impôts locaux. Que nous a répondu le système ? Du mépris et des ricanements. Mais c'est pas comme ça qu'on répond à la crise du politique. C'est pas avec un duel Hidalgo-Griveaux qu'on va réconcilier les citoyens avec la démocratie. Et donc, il faut, oui, condamner les violences, soutenir les agents publics, mais aussi rechercher des solutions. Et ça commence au niveau local.
Daniel Rémy, quand vous voyez ce qui s'est passé hier à la place d'Italie, on pense en particulier, parce que c'est emblématique, au saccage du monument en hommage au maréchal Juin.
Mais oui, tout ceci est proprement scandaleux, mais moi, j'ai en tête un prochain bouquin, bien sûr, qui robuste depuis déjà un bon moment. J'hésite entre plusieurs titres, mais j'en ai un qui me séduit assez et qui serait « Arrêter d'insulter nos morts ». Et en fait, j'étais, moi, jeudi soir, invité au Sénat, en présence du général, le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, à l'occasion du 70e anniversaire de l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Bon, j'en fais partie depuis très longtemps. Et il se trouve qu'il y avait là le témoignage, on a eu droit, si je puis dire, au témoignage de deux soldats. L'un a perdu et un bras et une jambe. Son véhicule a sauté sur une mine improvisée. Un autre a été gravement défiguré par un véhicule bourré d'explosifs qui est venu se projeter contre son véhicule blindé, etc. Je vais vous dire, c'est extrêmement touchant et émouvant. Mais en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour le budget de la défense ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est bien, les commémorations, c'est parfait, mais qu'est-ce qu'on fait en termes de gestion du budget public ? Alors, c'est vrai pour la défense, et c'est vrai pour le problème des classes moyennes, et moi, les classes moyennes, je vais vous dire, quand j'ai écrit ce bouquin, en 2001, j'étais effectivement très énervé de voir qu'il n'y avait pas de réaction face à ce que je subodorais déjà, ce que je ressentais parfaitement, c'est-à-dire l'écrasement des classes moyennes. Alors, je vais vous dire par une image très simple. Tout le monde connaît le hot dog avec une saucisse à l'intérieur et de la moutarde. Donc, les classes.
Un hot dog,
c'est quoi
aussi.
Vous avez une tranche de pain supérieure, une tranche de pain inférieure. La tranche de pain supérieure, c'est les grandes fortunes, et pas que les grandes fortunes. Tous ceux qui, sous le poids de la pression fiscale invraisemblable depuis des années qui s'accumulent, sont partis à l'étranger ou échappent à l'impôt par des astuces fiscales parce qu'ils ont les meilleurs conseillers. Et puis la tranche de pain inférieure, ben ce sont ceux qui vivent, et je suis loin de moi l'idée de dire qu'ils s'en satisfont, pas du tout, ceux qui vivent de minima sociaux, ceux qui, donc tout ça, ça coûte cher à la collectivité, bien sûr, qui sont sans emploi, tout ça, ça coûte extrêmement cher. Alors, loin de moi, et au contraire, de dire qu'ils se satisfont, pas du tout, ils voudraient un travail, ils veulent tous un travail. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Comme cette tranche de pain inférieure s'élargit et prend des proportions considérables que celle d'en haut, les gens partent. Quand vous appuyez sur les deux tranches, qu'est-ce qui se passe ? Ben, y a la moutarde qui finit par sortir du pain, et c'est l'éruption permanente. Alors, pour l'instant, je vais vous dire, je pense qu'on en est qu'au début, parce qu'effectivement, je crois que tout le monde l'a bien compris, les gilets jaunes, le problème est loin d'être réglé, parce que ne confondons surtout pas ce qu'on a tenté de faire, ce que les commentateurs, le gouvernement a tenté de faire un amalgame, une confusion, de entretenir une confusion entre les gilets jaunes et les casseurs. Ça n'a strictement rien à voir.
Les gilets jaunes ne sont pas les black blocs. Isabelle Dalloin, ce que disaient vos deux autres homologues débatteurs, le déclassement des classes moyennes, ça c'est quand même... À l'époque, les gens pensaient que leurs enfants, leurs petits-enfants vivraient mieux qu'eux. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Est-ce que ce n'est pas à l'origine de la désespérance ainsi que la pression fiscale ?
Oui, bien évidemment, c'est tout à fait une cause de la désespérance. Mais moi, je voudrais revenir à ce qui s'est passé hier. Quand on regarde le bilan, finalement, de cette manifestation, ça n'a rien à fait. Ça n'a pas du tout fait avancer la cause de ces personnes-là. Aucune solution. Et d'ailleurs, ce n'est pas un mouvement, les Gilets jaunes. Il n'y a pas de slogan, il n'y a pas d'unité. C'est complètement désorganisé. Vous avez de la casse. C'est cher pour... Ça va coûter aux contribuables français. L'image de la France est terrible. Vous avez des commerces qui sont arrêtés, des boîtes qui ferment. C'est dramatique. Je pense que tous ces gens devraient plutôt essayer de trouver des solutions. Il ne faut pas toujours tout attendre de l'État. Bien sûr, il faut attendre de l'État. Mais on peut... également essayer, il y a énormément d'associations actives dans les municipalités qui aident ces gens-là. Vous pouvez créer votre boîte. Il y a eu un exemple assez extraordinaire cette semaine de la femme entrepreneur de l'année. C'est une femme qui a une idée incroyable, qui s'appelle Christelle Gimaret, et elle a créé une entreprise de nettoyage écologique de bureaux. Donc, elle est partie de rien, sans aucun apport personnel. Et au bout de 14 ans, elle a 14 personnes qui elle a 140 personnes qui travaillent pour elle. Elle a créé sa boîte, elle a créé des emplois. Et voilà. Et je pense qu'il faut, justement, quand on est dans la désespérance, essayer d'unir ses forces pour faire quelque chose de productif.
Oui, mais c'est ce que dit Isabelle, c'est très intéressant.
C'est la citation de Kennedy, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour
absolument,
votre pays.
Absolument, mais moi je rebondis sur ce que dit Isabelle. Moi-même, j'ai créé mon entreprise, la première de mes entreprises, véritable entreprise, en 76, jusqu'à 600 personnes. j'ai créé plus de 600 emplois et bien davantage, puisqu'il y avait quand même un certain turnover, sans jamais demander et avoir reçu le moindre sou public. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui se lancent et qui précisément font appel à du personnel, donc sont les vrais créateurs d'emplois, les PME, PMI, etc., pour résister face à la pression fiscale et surtout les charges sociales qui s'amoncellent, qui s'accumulent, en veux-tu, en voilà, c'est de la folie douce. C'est impossible dans ce pays de créer de l'emploi et d'être pérenne. C'est pas possible compte tenu des charges et de la pression fiscale.
Vous êtes bien sur Sud Radio, 9h16. On continue ce débat dans Dimanche dans quelques instants.
Le Grand Matin Sud Radio Weekend. Le débat de la semaine.
Retour du débat de la semaine en compagnie d'Isabelle Dalmain, conseillère en communication, Daniel Rémy, expert en sécurité, terrorisme et auteur du livre La France des talibans, République cherche repreneur, publié chez Granger. Et enfin, Ryan Nézard, porte-parole de Cédric Villani, qui est candidat à la mairie de Paris. Ryan Nézard, vous vouliez parler vous aussi du drame, parce que c'est un drame de du déclassement des classes moyennes.
Oui, pour vous dire que... On a cru pendant les années 2000 que c'était un phénomène qui ne concernait pas les métropoles. Et finalement, il y avait deux parties du pays qui étaient coupées en deux. Aujourd'hui, à Paris, vous avez chaque année 12 000 personnes qui quittent Paris. Et sur l'espace d'une mandature...
C'est moyennement étonnant.
J'allais y venir. Et sur l'espace d'une mandature, ça représente 60 000 habitants, c'est l'équivalent de la population du 5e arrondissement. Vous imaginez le 5e ? Panthéon, tous ces monuments, tout cet espace qui se vide tout d'un coup de sa population en une seule mandature. C'est lié à quoi ? Effectivement, les prix du logement, plus de 10 000 euros en moyenne à l'achat, 240 000 personnes en attente d'un logement social. Comment faire quand vous êtes jeune ? Comment faire quand vous êtes une famille monoparentale ? Et même maintenant, quand vous êtes un couple de classe moyenne pour se loger dans Paris ? Mais c'est lié aussi à d'autres sujets, la fiscalité. On en parlait. Il y a des choses au niveau national, la suppression progressive de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu, c'est positif. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Ce sera un débat. Mais il y a enfin des choses aussi qui concernent la démocratie. Quand on se sent plus écouté, quand on se sent plus considéré dans sa cité, dans sa nation, évidemment que ça nourrit le ressentiment et la défiance. Il y a 10 à 15% seulement des Français qui aujourd'hui croient encore aux partis politiques. Et donc vous avez parlé de Cédric Villani. On a une proposition aujourd'hui dans Paris qui est de créer une agora de 163 Parisiennes et Parisiens tirés au sort parallèlement au Conseil de Paris. Cette proposition, moi ce que j'espère, c'est que demain elle sera reprise dans d'autres villes.
On est à un an des Gilets jaunes, il y a quand même une question importante. Ça a commencé avec la hausse de la taxe sur les carburants, de la taxe carbone. Les gens n'en pouvant plus qu'on leur demande de payer encore et encore pour simplement aller bosser pour nombre d'entre eux. On leur disait acheter une voiture électrique, c'était pas dans leurs moyens. Et l'autre jour, on avait un Gilet jaune dans les vraies voix sur Sud Radio qui disait... Où passe l'argent, on paye des impôts et on a des routes qui ont des trous, et je vais extrapoler, on a des routes qui ont des trous, on a une justice qui fonctionne pas parce qu'elle a pas de moyens, on a une éducation nationale où les enfants, 20% des enfants savent pas lire en arrivant en 6e, on a une police qui met une demi-heure à répondre, on est le pays le plus taxé où il y a les services publics les plus déplorables. Est-ce que c'est pas ça le vrai mal, Daniel Rémy ?
Bah bien sûr que c'est le vrai mal.
Parce qu'on se demande où passe l'argent, comme le disait le Gilet jaune.
Mais on a quand même des pistes. Mais tout le monde s'en fiche et s'en contre-fiche. En tous les gouvernements successifs, c'est la Cour des comptes. Enfin, il y a quand même un examen, un compte-rendu des comptes. Et puis, attendez, il y a un arbitre. Mais évidemment, il est jugé parti. Alors, c'est très compliqué. C'est Bercy. S'il y en a un qui connaît bien la réalité des chiffres, puisque tous les bilans sont faux, tout le monde le sait. D'ailleurs, il y a même des ministres de l'économie et des finances successifs à Bercy qui ont déclaré eux-mêmes que tous les comptes publics étaient faux.
Oui. Bon, donc cet argent, c'est le double, hein, c'est 5 000 milliards, c'est
sûr.
Pas 2 500.
Donc cet argent, on triche surtout et on triche en permanence. Alors que le premier chef d'entreprise qui lui commet un abus de bien social parce qu'il a fait facturer les heures de sa femme de ménage en son domicile par sa société, lui, il est responsable pénalement. Et souvent, quelquefois d'ailleurs, ils sont condamnés. Bon, donc l'argent, on le sait, il y a une gabegie en termes de dépenses publiques de manière considérable. Et quand on a entendu, comme tout le monde, Emmanuel Macron dire qu'il allait s'attaquer à cette surcharge pondérale, cette graisse superflue dans la fonction publique, on voit qu'il a reculé surtout. Or, on ne peut pas en permanence demander aux Français toujours plus d'impôts et ne pas réduire le train de vie de l'État. Et attention, moi, je fais une différence fondamentale entre les fonctionnaires qui sont ce que j'appelle productifs et les autres. Une infirmière qui est au chevet d'un malade, on en manque, il faut les former, il faut qu'elles soient mieux payées. Des policiers qui courent derrière des voleurs, et pas ceux qui sont derrière planqués aux entours sur les autoroutes à faire du contrôle radar, etc. Ceux-là, ils sont improductifs, si, au niveau de Bercy, mais pas en termes de sécurité publique. Des instituteurs, des professeurs devant des élèves, il en faut davantage et mieux payés. Mais dans les administrations essentielles,
il faut faire là du vrai dégagisme.
Direction le 0800 26 300 300, on a Louis d'Avignon qui veut réagir au débat. Bonjour Louis.
Oui, bonjour.
Bienvenue bonjour. Sur Sud Radio, on vous écoute.
Oui, voilà, je suis en train d'écouter dans votre émission. Et il se trouve que dernièrement, il y a eu pas mal d'émissions sur les crématoriums.
Oui.
Notamment sur Marianne et sur la 2. Et ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que d'un côté, vous avez une population qui, elle, travaille et paye ses impôts, paye ses charges, paye absolument tout et n'arrive pas à s'en sortir. Et de l'autre côté, vous avez une population qui, elle, est dominante, ce sont nos dirigeants, et notamment tout ce qui concerne donc les municipalités qui ont ces crématoriums, qui, eux, récupèrent les métaux de ces défunts au lieu de les rendre aux ayants droit. Et se mettre cet argent dans la poche. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est comme valeur ? Eh bien, il faut savoir que l'an dernier, il y a eu une évasion fiscale de près de 100 millions d'euros, rien que sur ces métaux. Et ce sont les municipalités qui détiennent ces crématoriums qui se les mettent dans la poche, et avec lesquelles elles vont bientôt pouvoir les utiliser pour les prochaines élections municipales.
Ah ben Louis, merci beaucoup de votre témoignage. J'en avais jamais entendu parler. Pour moi, dans les crématoriums, ne restait que décembre. On va terminer là-dessus. Isabelle Dalloin, Ryan Nézar. C'est vrai que on voit les municipales qui approchent, ça va être très tendu quand on voit l'état du paysage politique français.
Oui, et moi je voudrais prendre la défense des politiques, parce que on oublie un peu le travail des parlementaires, des maires, des conseillers municipaux. Dans les campagnes, dans les petites mairies, les conseillers municipaux sont tous bénévoles, ils font un travail absolument formidable, on a tendance à l'oublier. Les parlementaires également. Moi, j'ai été attachée parlementaire pendant plus de 20 ans. Et c'est du travail 7 jours sur 7. Et tout le temps. Et c'est des gens engagés qui se sont lancés en politique en général avec des convictions. Voilà. En tout cas, pour la dépense publique, c'est vrai qu'il y a vraiment un travail absolument énorme à faire.
Ryan Nézar, pour le mot de la fin.
Non, mais vous avez raison. À l'Assemblée, c'est les séances de nuit. C'est du travail H24. Après, ils ont été élus, ils l'ont choisi, mais c'est effectivement du travail qui est extrêmement engagé. Dans les petites communes, c'est souvent pas rémunéré, et donc il faut probablement revoir le statut de l'élu. Mais juste pour finir sur la gabegie d'argent public, vous savez combien il y a de chargés de communication à la mairie de Paris ?
Non.
400.
400. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça en fait 20 par arrondissement.
Je vous laisse sur cette statistique.
Surtout quand on mesure le résultat.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Ryan Nézar, porte-parole de Cédric Villani, Daniel Rémy, expert en sécurité et terrorisme, et Isabelle Dalloin, conseillère en communication. Pardon. Dans quelques instants, on va se détendre un peu avec Tous au Jardin, et on va parler des jardins connectés.